Bonjour à tous, bienvenue sur un nouveau podcast de Two Step. Aujourd'hui pour un nouvel épisode de Step Solution avec Barthélemy Fend, donc qui gère, qui s'occupe de tout ce qui est startup à School Lab. Salut Bart.
Salut.
Comment tu vas?
Ça va super bien et toi?
Eh bien écoute, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation déjà pour enregistrer le podcast. Aujourd'hui, je le rappelle, on est à la permanence, donc à Paris dans le 14e. C'est un espace de coworking pour start-upers, pour étudiants, ouvert toute l'année 24-24. Donc si jamais ça vous intéresse, c'est ici, dans le 14e, dans le 18e et dans le 5e arrondissement de Paris. Du coup, aujourd'hui, Bart, c'est un peu un épisode spécial parce qu'on ne va pas parler d'une boîte que tu as lancée, mais on va parler d'incubation, d'incubateur, d'accompagnement d'entreprise. Donc, si vous êtes porteur d'un projet, si vous êtes déjà en activité ou que vous cherchez à rejoindre un incubateur ou que vous allez y être amené, je pense que cet épisode va vous apporter vraiment pas mal de ressources et qui va vous intéresser. Alors du coup, Bart, moi déjà, je vais te demander de te présenter en quelques secondes, minutes, et puis après de me présenter School Lab.
Ok. Très synthétique. Écoute, moi, c'est Barthélemy, j'ai 29 ans là aujourd'hui, papa épanoui, sportif aussi ardu le week-end. Rapidement sur mon parcours professionnel, j'ai fait une école d'ingé, ensuite j'ai fait 3 ans dans une agence web qui s'appelle Equino, qui a été rachetée par Havas, dans laquelle j'étais dans la cellule commerciale. Ça m'a énormément appris, donc je suis sorti de ça, j'ai monté ma propre agence web, donc j'ai monté ma première boîte. Après, on a changé un petit peu de modèle, on est passé en tant que société d'édition de sites internet. Donc tout simplement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire lancer plein de business web à la volée. Donc on a fait de l'affiliation, de la formation en ligne, de la création d'e-books, de la pub et aussi des copycat. On a fait des comparateurs de vol, des comparateurs d'assurance, ce genre de sites. Donc voilà, il y a aussi, on a revendu une grosse partie des business web qu'on avait créé à l'époque, mais il y en a encore quelques-uns qui tournent en affiliation. Donc voilà, et ensuite suite à ça, j'ai monté une boîte qui s'appelle Abricot, qui est un site de rencontre. Ça a duré 2 ans et demi, ça a été une super aventure. On est passé d'incubateur en incubateur, on a levé des fonds, on a créé une team, on a fait de l'acquisition à foison et un peu sauvage un peu partout. Et cet été, donc été 2019, pour des raisons un petit peu perso, moi je suis parti de la boîte, donc j'ai revendu mes actions à mes associés. Et j'ai lancé un podcast pour ceux que ça intéresse qui s'appelle Extraterrien où j'interview des sportifs de haut niveau. Et depuis quelques mois, j'ai rejoint School Lab du coup pour prendre en charge toute leur incubation. Parce que School Lab, c'est un petit peu des fois compliqué pour ceux qui découvrent School Lab, mais en fait c'est très simple. La mission de School Lab, c'est d'apporter l'innovation à la fois dans les grands groupes, dans les PME et pour les porteurs de projets. Donc il y a toute une partie effectivement qui concerne les grands groupes, les ETI et les PME, où on va faire du conseil, de la formation et du lancement de produits, un peu comme un startup studio en marque blanche. Tu vois, on a lancé un service de livraison de fûts pour Heineken par exemple, ou une école de coiffure pour L'Oréal. Donc ça, on le fait vraiment pour eux, donc à la fois en conseil et en exécution. Et à côté de ça, on a une grosse partie qui est un peu notre vitrine de l'innovation, qui est notre incubateur, et sur lequel on n'est souvent pas très connu pour 2 raisons. C'est parce que historiquement, on prend beaucoup de projets très early stage. Donc il y a les projets, les entreprises passent par d'autres incubateurs après, et donc généralement c'est eux qui récoltent un petit peu la lumière au moment
du travail, quoi.
Ouais, exactement, au moment de la levée de fonds ou des campagnes presse. La deuxième raison, c'est qu'on a plusieurs programmes et que aujourd'hui je suis là pour restructurer tout ça et un peu mieux communiquer dessus, quoi.
Voilà. Ok, donc en gros avec School Lab, vous faites de l'accompagnement d'entreprise, donc vous faites aussi bien les ETI que les startups, ouais. Mais toi, donc tu gères vraiment tout ce qui est startup, et puis votre vitrine surtout, c'est les startups.
Ouais, exactement.
Vachement early stage.
Exactement, en fait, nous, c'est à la fois une vitrine parce que ça nous permet de montrer à des grands groupes, regardez, on sait bosser avec des startups, on sait innover, on a les méthodes lean, on a les méthodes un peu de design thinking ou même un petit peu de gros hacking, tout simplement. On sait les appliquer, on sait accompagner des entrepreneurs, donc on est capable aussi de les appliquer et de les transformer pour des grands groupes. Et en même temps, être connecté à l'univers entrepreneurial, c'est être connecté à l'innovation, c'est être connecté à ce qui se fait de nouveau, c'est être connecté vraiment à ce qui se fait de mieux aujourd'hui, et ça nous permet en fait nous à la fois d'avoir un bac à sable pour essayer des choses et en même temps d'apprendre et d'avoir des équipes qui sont en permanence connectées à ce qui se fait de nouveau. Donc je pense que c'est un très bon modèle.
Alors justement, là il y a eu beaucoup de vocabulaire, enfin très gentiment, mais il y en a eu pour les personnes du coup qui découvrent un peu tout ce qui est l'accompagnement, donc Incubateur, est-ce que tu peux définir un incubateur? Alors, sans qu'on rentre un petit peu dans les légers détails, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on y fait? Pourquoi on y va?
Alors, un incubateur, tout simplement, c'est un établissement qui va accueillir des jeunes entrepreneurs ou tout simplement des gens qui sont porteurs de projets, porteurs d'idées, et qui va, cet établissement va mettre à leur disposition des ressources, du temps, de l'humain, pour justement faire éclore ces projets et pour essayer de à la fois leur faire les bons choix, essayer de leur apporter les bonnes ressources et aussi de leur apporter du réseau, de l'accompagnement et de leur permettre un peu de se structurer. Donc aujourd'hui, il y a plein de formules différentes qui sont proposées à Paris, en région, à l'international. Je pense qu'il n'y a pas deux incubateurs qui se ressemblent et qui a la même offre. C'est aussi ça qui est assez à la fois hyper enrichissant, nous, en tant qu'accompagnants, mais aussi qui peut être un petit peu difficile, je pense, pour les porteurs des projets de s'y retrouver et tout simplement de savoir un petit peu toutes les formules qu'il peut y avoir, sachant qu'en plus, depuis effectivement, on va dire depuis les années 2010, il y a aussi le terme d'accélérateur, où vraiment, là, le but,
On
ça
va
va...
définir tout ça, ouais.
Ouais, si tu me le permets de le faire maintenant,
Allez, vas-y, vas-y.
merci. Je pense que c'est beaucoup plus défini pour des projets avec une forte ambition et surtout une forte scalabilité et leur permettre en fait de leur ouvrir un écosystème à la fois financier et technique pour tout simplement pouvoir exploser. Donc là, c'est vraiment généralement c'est sur des programmes un peu plus courts en temps et vraiment faire exploser le projet sur une petite durée, quoi.
Alors là, il y a deux points du coup super intéressants. Donc les incubateurs, c'est un écosystème riche et polyvalent dans le sens où on peut aller en incubateur. Alors, tu as fait la différence entre incubateur où là on peut y entrer en early stage ou même en tant que porteur de projet, c'est-à-dire à l'étape du proto, du MVP. Là, on est en incubateur et tout ce qui est accélérateur, c'est voilà, on est déjà sur le marché, on fait un certain chiffre d'affaires, on cherche justement à accélérer, donc à hacker notre croissance. Et c'est là qu'on va avoir besoin de ressources plutôt d'un accélérateur. Et donc surtout, ce que je disais, ce qui est intéressant, c'est que tous les incubateurs ne se ressemblent pas. Déjà, quand je dis que l'écosystème est riche, c'est qu'il y a des incubateurs qui sont plus tournés sur la tech, d'autres sur d'autres secteurs, d'autres marchés. Et puis surtout, on va y trouver toutes sortes de ressources, tu l'as dit, humaines, financières, technologiques et matérielles en fait. Bon, le technologique est dans le matériel. Donc humaines, financières et matérielles. Tu vois, il y a des incubateurs, ils font que de l'humain, où ils ont plus de réseau, ils vont te faire
C'est vrai.
bénéficier du réseau. Puis d'autres, ils sont plus là pour te prêter de l'argent, tu vois, et d'autres, voilà, tu vas y retrouver beaucoup de matériel, beaucoup de matos. En fait, si, en fonction de ton projet, faut pas aller dans n'importe quel incubateur, tu vas pouvoir en revenir là-dessus, mais voilà, quand je dis que l'écosystème est riche, c'est dû à ça, quoi.
Ouais, tout à fait. Tu vois, il y en a pour tout le monde. Je pense qu'aujourd'hui, chaque porteur de projet peut trouver une structure d'accompagnement qui lui convient. C'est vraiment génial. Il y a une offre qui est très diversifiée. Alors, tout le monde se dirige un petit peu vers les mêmes grands pôles d'intérêt parce qu'effectivement, certains communiquent un peu mieux ou peut-être vont avoir une proposition de valeur qui fait un petit peu plus. Qui est un petit peu plus attirante, mais il faut savoir que c'est généralement réservé à un certain type de projet qui est très très bien mesuré. Et aujourd'hui, en fait, ouais, chaque porteur de projet
Un
peut trouver sa
incubateur qui lui
structure.
correspond.
Exactement, ouais,
Alors
vraiment.
justement, il y a plusieurs types d'incubateurs. Il y a les incubateurs publics.
Ouais.
Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? Les incubateurs un peu plus corporate, donc d'entreprise, parce qu'il y a aussi des boîtes qui ont leurs propres incubateurs. Par exemple, je crois qu'AXA, ils ont un incubateur.
Ouais, bien sûr, tout à fait.
Et les incubateurs d'école, commerce, ingénierie. Alors, School Lab, aujourd'hui, vous êtes quel type d'incubateur? Et puis, est-ce que tu peux revenir un peu sur voilà, tous ces types d'incubateurs? Qu'est-ce qu'ils sont capables de proposer? Quelles sont, si tu veux, leurs valeurs ajoutées?
Nous, si tu veux, aujourd'hui, notre incubateur, il a vraiment un modèle indépendant. Il est rentable économiquement, il est à l'équilibre. Je pense qu'on est hyper fiers de dire ça parce que c'est assez rare sur le marché, en tout
Il a
cas.
été lancé en quelle année?
Que je te dise pas de bêtises, mais School Labs a été créé en 2007 sous forme d'association. Et les premiers programmes d'incubation, ils ont été
Aux
créés en
alentours de l'année.
2014-2015.
D'accord, ok.
Ouais.
Ok.
Voilà. Et du coup, pour répondre à ta question, comment nous on se situe? Vraiment, on est un acteur indépendant de grands groupes. Donc, on n'est pas associé à une école ou à un groupe corporate. On porte en tout cas l'incubateur en nom propre. Et du coup, un peu, qu'est-ce que ça va impliquer? C'est que déjà, on a beaucoup plus de liberté en termes de mouvement. La deuxième chose aussi en termes d'image de marque aussi, c'est vraiment, on est un petit peu plus libre et on peut vraiment lancer des programmes tels qu'on les souhaite. Et nous, on essaye de créer différents programmes pour différents profils d'entrepreneurs, pour des gens qui sont plutôt avancés, plutôt sur du B2B, pour des gens qui vont avoir travaillé 10 ans dans un grand groupe et qui n'ont jamais entrepris de leur vie. Tu vois, c'est un peu les différents programmes qu'on a. Ta question c'était vraiment de nous, comment est-ce qu'on se positionnait.
Exactement, ouais.
Et aujourd'hui, Schoolab, il y a une ADN qui est très forte, qui est portée sur l'innovation et l'impact. Donc on a trois programmes qui sont vraiment portés sur apprendre à innover, apprendre à avoir de l'impact. Donc on va aider effectivement des fois des business models qui peuvent paraître un petit peu plus compliqués ou qui vont avoir des enjeux un peu sociétaux, environnementaux.
Donc quand tu dis impact, c'est tout ce qui est RSE.
Ouais, exactement, ouais. Ouais. C'est vrai que bon, je me ferais taper sur les doigts si la personne de Schoolab de la RSE m'écoutait, parce qu'il y a souvent des problèmes de, on va dire, de définition des mots et de nuances et des choses qui sont encadrées. Nous, on prend dans tout ce qui a un impact, tout ce qui a un impact positif à la fois sur l'économie, la société et l'environnement. Donc ça fait partie vraiment fort de notre ADN. Et on a un programme qui est réservé aussi aux étudiants, qu'on opère, tu vois, à Station F. Donc là, c'est un programme qu'on fait avec Pépite. Donc Pépite, c'est l'organisation des universités françaises.
Pour les étudiants entrepreneurs, qui a un statut national, en fait, qui est gratuit, obtenable
jusqu'à tout moment de l'année. Qui est gratuit, qui donne énormément d'avantages, ne serait-ce qu'une carte de transport beaucoup moins chère, des musées gratos. Enfin, il y a plein d'avantages. Franchement, j'encourage tous ceux qui ont fait des études, qui sont passés par la voie universitaire et qui ont moins de 27 ans à regarder ce statut-là, parce que notamment quand on n'a pas le droit au chômage, ça peut être super intéressant pour tout ce qui est fiscalité. Il peut y avoir des choses vraiment intéressantes à faire dessus. Donc nous, on a un programme qui est dédié à ces étudiants entrepreneurs et qu'on est hyper content d'opérer, parce que généralement, c'est des jeunes qui sont encore à l'université, qui n'ont pas un emploi du temps plein. Et du coup, on va les aider un peu à s'organiser, à se structurer, et on va les aider vraiment à être de manière efficace à comment est-ce qu'ils peuvent lancer leur projet en tant que comme s'ils étaient étudiants. Donc en plus, c'est chouette, c'est à Station F. On a un autre programme qui est pour le coup sur lequel on est en marque blanche avec French Tech. Qui est French Tech Tremplin, et là c'est vraiment dédié aux entrepreneurs qui viennent un peu de milieux un petit peu différents que ce qu'on peut voir un petit peu sur la scène entrepreneuriale parisienne. Il faut quand même se l'avouer, en France, enfin aujourd'hui encore à l'heure actuelle, la majeure partie de l'écosystème on va dire des startups, et notamment des startups qui lèvent des fonds et à fort potentiel, c'est très souvent le jeune cadre blanc dynamique qui est passé par un peu la voie royale prépa et école de commerce. Et du coup, la French Tech nous a sollicité pour créer un programme justement pour accompagner des gens qui ne viennent pas du tout de cet univers-là. Donc là, c'est vraiment passionnant parce qu'on se retrouve avec des gens de tout horizon et qui ont...
Si tu me le permets, un peu comme le programme Fighters de Station F, du coup.
Ouais, exactement.
Tu vois un peu dans cet esprit...
Exactement. Okay. C'est exactement la même chose. C'est dans l'esprit Fighters. La seule différence, c'est que Fighters, c'est vraiment un programme international, et French Tech, c'est des entreprises qui sont passées, qui ont été éligibles à la bourse French Tech.
D'accord.
Voilà. Et après, les deux plus gros programmes qu'on a aujourd'hui chez Schoolab, et après je termine parce que c'est pas du tout le but de faire de la promo. Le premier s'appelle SeedUp. Le persona, il est très simple, c'est une boîte B2B qui fait plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires, qui est vraiment en train d'accélérer et qui a envie d'améliorer on va dire les trois critères de croissance. Donc le premier, c'est la vente, le recrutement, et le dernier, le financement. Donc ils sont coachés sur du sales et sur du marketing, ils sont coachés sur du recrutement et de la structuration, et ensuite ils sont coachés sur vraiment pas forcément du coaching, mais vraiment de la mise en relation avec tout l'écosystème VC. Donc là, c'est vraiment très précis, et ça, on adore ce programme parce que on fait vraiment du travail d'orfèvre avec 10 startups par an, et il y a des super résultats. Et ensuite, le programme historique de Schoolab, on recrute une soixantaine de startups par an, une centaine. C'est pour les gens qui n'ont jamais entrepris, ils peuvent venir avec juste une idée de projet. Et en fait, ils vont avoir un mois de piscine où vraiment ils vont apprendre le design thinking, ils vont apprendre comment pitcher, ils vont apprendre comment valider leur marché, comment aller parler à des clients.
Le sac à dos de l'entrepreneur, quoi.
Voilà, exactement, tu as très bien résumé, le sac à dos de l'entrepreneur en un mois. Et après, ils ont 5 mois pour se lancer avec un coach, des workshops sur les sujets qu'ils veulent. Voilà.
Bon, tu l'as très bien dit, la chance qu'on va avoir du coup avec toi aujourd'hui, c'est qu'on va faire une première partie où vraiment on va définir tout l'environnement d'incubateur, on va répondre aux grandes questions qui se posent tous les jours sur Internet, tous les jours dans les différents incubateurs, sur pourquoi je suis là, comment je viens ici, qu'est-ce que je vais apprendre et faire ici, qu'est-ce que ça va m'apporter, quels sont les différents critères pour pourquoi je suis ici par rapport à un autre. Et dans un deuxième temps, tu vas me dire, voilà, tu l'as déjà commencé à le faire, c'est pas mal du tout, c'est quels sont les programmes au sein School Lab, comment j'arrive chez School Lab, avec quoi je sors et pourquoi j'y viens. Tu vois, donc on va faire un épisode vraiment écosystème global et ensuite on va vraiment prendre au cas par cas par rapport à School Lab parce qu'on a la chance de t'avoir ici, tu vas pouvoir tout nous dire au cas par cas. Donc voilà, je vais te demander du coup, première question, est-ce que tu peux me faire la différence entre un incubateur et un accélérateur? On l'a déjà fait en 5 minutes, mais voilà, en 20 secondes.
Un accélérateur, c'est vraiment pour une startup scalable avec un très fort potentiel, si possible mondial, potentiellement qui va avoir des besoins en financement. Et le but, c'est vraiment d'accélérer le programme sur une durée très courte, d'améliorer son produit, ses ventes et on va dire le côté un peu fundable, désolé pour l'anglicisme, mais en gros voilà, est-ce qu'elle est supportable par un fonds de VC? Et un incubateur, c'est beaucoup plus, on va dire, il n'y a pas forcément de notion de durée, mais c'est plutôt voilà, pour permettre à un projet d'éclore et de se construire. Voilà.
Ok, ça va être un peu plus long, quels sont les différents critères? Première partie, moi en tant que boîte qui cherche à rejoindre un incubateur, quels sont les différents critères que je dois me poser pour choisir mon incubateur?
Alors, c'est une super bonne question. Je pense que là, il y a énormément de sujets. Le premier, c'est déjà de savoir, est-ce que, c'est une question toute bête, c'est le prix, tout savoir, comment ça se paye? Il y a très très peu aujourd'hui d'incubateurs ou d'accélérateurs qui sont entièrement gratuit. Ceux qui proposent de la gratuité généralement prennent ce qu'on appelle de l'equity, donc des parts dans son entreprise, et ça c'est un choix très important à faire. Certaines personnes qui n'ont pas forcément envie de laisser du capital à leur entreprise, il y a d'autres personnes qui au contraire sont prêtes à laisser du capital qui sont prêtes à dépenser pour de l'accompagnement. Donc ça, je pense vraiment la première chose. La deuxième chose, c'est de savoir est-ce qu'il y a des bureaux qui sont associés à l'établissement. Certains accélérateurs ou incubateurs, c'est uniquement du réseau. Donc voilà, ça va être sur un groupe Slack, ça va être quelques soirées dans l'année. Mais voilà, il n'y aura pas de bureau et il n'y aura pas de structure vraiment pour vous accompagner, d'un point de vue logistique, quoi. Avoir une imprimante, avoir une boîte postale pour recevoir des colis, pouvoir avoir une salle de réunion pour accueillir des clients.
C'est toujours mieux d'avoir un desk, même un open space, etc. Parce que bénéficier du réseau en restant dans le digital, on n'en bénéficie pas forcément. Quoi. Alors que rencontrer les gens, pouvoir parler avec les gens, échanger des projets, créer des affinités, ça se fait vraiment que dans le présentiel. Quoi.
Ouais, exactement. Je pense que en tout cas sur la partie réseau, le digital, ça peut que être un accompagnement de ce qui se passe dans le réel. Et il y a très très peu de communautés qui arrivent vraiment à se faire 100% digital. Donc voilà, c'était la deuxième sur le desk. Et on a mis le pied dans le troisième, c'est vraiment le réseau. Est-ce que c'est un endroit où je vais pouvoir rencontrer du monde? Est-ce que c'est un endroit où je vais pouvoir me connecter facilement avec d'autres entrepreneurs? Ou est-ce qu'à l'inverse, c'est plutôt un peu cloisonné et chacun est un peu dans son coin? Ça, c'est très important. La dernière, c'est de savoir est-ce qu'il y a du coaching et vraiment de l'accompagnement? Des mentors. Est-ce qu'on met à disposition des gens ou des ressources tout simplement pour prendre du temps une fois toutes les deux semaines, une fois toutes les semaines pour pouvoir échanger des problématiques qu'on peut rencontrer? Je pense que ça, c'est hyper important quand on est un entrepreneur, qu'on commence notamment, quand c'est la première boîte qu'on monte ou qu'on n'a pas un écosystème, on va dire, amical qui est entrepreneurial, de pouvoir un peu partager ça avec un entrepreneur un peu plus chevronné qui prend une heure de son temps pour pouvoir échanger. Je pense que ça a vraiment extrêmement ça a beaucoup de valeur, quoi.
C'est ce que j'allais dire, ouais.
Et donc je pense qu'on a fait les quatre points les plus importants.
Cinquième petit point additionnel,
ouais, vas-y, dis-moi.
Certains services que peuvent apporter des incubateurs,
ouais, exactement. Ça, c'est un peu le prolongement, on va dire, du réseau. C'est est-ce que le mot anglais qui est très très à la mode, c'est le mot perks, donc PERK. Est-ce que voilà, il y a des avantages à être dans un certain incubateur et potentiellement donc ça peut être des services beaucoup moins chers. Donc très souvent on retrouve les services Google Cloud ou AWS, mais il y a aussi plein de SaaS qui vont proposer des réductions. Et donc ça permet, c'est hyper bien parce que ça permet à un projet de se lancer, de pouvoir tester des nouveaux outils gratuitement, sachant que des fois il y a certains outils qui peuvent être très chers, quand c'est de la génération de leads ou quand c'est des CRM, généralement c'est pas donné. Donc ça permet de pouvoir tester ces outils super chers là. Donc voilà, exactement, à moindre frais,
ouais. Que ce soit des CRM ou même réduire les commissions, par exemple. Stripe, faut être chanceux, mais voilà, réduire des commissions Stripe ou réduire un peu, voilà, en fait c'est
coût, ouais. C'est coût de départ,
réduire, ouais. C'est coût. qu'est-ce qu'on peut attendre d'un incubateur en fait? Alors, on parle vraiment d'incubateur. Donc moi, imagine, je suis porteur de projet. Voilà, j'ai envie de développer mon truc. Déjà, comment je viens vers un incubateur? Quelle est mon approche, si tu veux, pour être crédible? Parce qu'en fait, ça, c'est une vraie question qu'on peut se poser. Tu vois, tu l'as très bien dit, quand on lance sa première boîte, déjà, il faut le faire. Ensuite, je veux aller voir un écosystème qui, alors j'aime pas ça, mais qui est un peu plus haut que moi dans l'échelle. Comment je viens, comment je l'approche pour être crédible, pour être reçu? Est-ce qu'il y a un dossier? Est-ce que je dois rencontrer des personnes? Comment ça se passe pour être reçu vis-à-vis d'un incubateur?
Alors, je pense que bon, chaque incubateur a un peu sa sauce, mais il y a des choses qui reviennent toujours. Je pense qu'il faut toujours avoir un bon PowerPoint, un bon pitch deck, tout simplement.
Un bon deck, ouais.
Ou un bon deck de un peu de la boîte, où est-ce qu'elle en est. Je pense qu'il faut aussi beaucoup travailler qu'est-ce que la boîte a fait les 3 derniers mois avant de postuler. Généralement, c'est un super bon indicateur et c'est une question qui est très souvent posée dans les sessions de recrutement.
Et alors, si j'arrive avec un deck, donc un deck, tu vois, mais je ne me suis pas lancé, j'ai zéro de chiffre d'affaires, je n'ai pas de client. Tu vois, imagine vraiment. Donc là, tu m'as dit qu'est-ce que la boîte a fait les 3 derniers mois. Alors, ça peut être chiffre d'affaires, croissance, recrutement ou pas, pivot, tout ce que tu veux, construction du produit avec le marché. Mais si j'ai rien et j'arrive justement pour qu'on m'aide à construire mon produit ou développer mon service.
Bah, je pense qu'il faut essayer de mettre en avant d'autres choses. Du coup, déjà, essayer de mettre un petit peu plus d'engagement dans son projet, que ce soit sur le pitch deck, donc montrer un petit peu qu'on a avancé. Il n'y a pas forcément de chiffre d'affaires.
Juste en montrant qu'on a fait, quoi.
Ouais, exactement. Il faut montrer qu'on a créé, qu'on a fait des choses. Les idées, c'est bien, mais comme on le répète très souvent, c'est l'exécution qui prime et l'idée ne vaut rien. Donc, il faut mettre en avant exactement tout ce qui a été exécuté les 3 derniers mois. Je pense qu'il n'y a pas de meilleur conseil que ça. C'est prendre un petit peu de recul, se laisser une petite demi-heure, prendre une feuille blanche et se dire voilà, qu'est-ce que j'ai fait les 3 derniers mois? Et des fois, ça permet aussi de faire un bon travail d'introspection et de se dire vraiment.
À quel point je me suis engagé dans mon projet.
Ouais,
pas forcément financièrement, même si c'est pas mal, mais surtout humainement, en termes de temps, etc. Quoi.
Ouais, est-ce que vraiment j'ai mis toutes les chances de mon côté? Est-ce que vraiment ce sur quoi j'ai passé du temps, est-ce que ça a vraiment apporté du business ou pas du tout? Donc voilà, se poser un petit peu ces questions-là, les poser sur papier et s'attendre à ce qu'on la pose. Et après, je pense pour entrer en contact avec des incubateurs, le mieux, c'est toujours d'essayer de passer par l'effet de réseau. Donc, tout simplement, si vous connaissez des gens qui travaillent de près ou de loin dans l'incubateur ou si vous connaissez des gens de près ou de loin qui ont déjà été incubés, ça, c'est vraiment des points en plus. Moi, j'adore les startups qui me disent « voilà, j'ai appelé les actuels incubés, je leur ai demandé comment ça se passait, les avantages du programme, ils m'ont fait leur retour et du coup, je suis persuadé que c'est fait pour moi. » je pense que c'est un peu pareil que dans un entretien d'embauche, hein, ceux qui font un petit peu l'extra mile, comme on dit, ceux qui font le petit pas en plus que les autres, c'est hyper apprécié.
Ceux qui font un petit benchmark de l'incubateur avant de venir, quoi.
Ouais, voilà, qui vont prendre un petit peu des infos, qui essayent de passer un petit peu par le réseau et si en plus vous pouvez être recommandé, je pense que c'est tout bénef, quoi.
Ok, petite question avant d'aller vers une un peu plus principale. Tout à l'heure, tu as parlé de comment on paye un incubateur. Tu l'as dit, ça peut être des pourcentages du capital, donc de l'equity, ou un prix. Question 1, donne-moi la fourchette aujourd'hui du prix. Alors attention, nous, on a à Paris aujourd'hui du prix d'une incubation sur Paris, dans les différents incubateurs. Donc tu me fais la fourchette. Et alors, je ne sais pas si tu connais l'écosystème français un peu plus global, etc. Monde, ça ne nous intéresse pas. Nous, on est vraiment pour le public français. Parisien, bon. Outre, si tu veux, voilà, donne-moi la fourchette de prix de. Donc, oublie l'equity. Tu peux me donner les pourcentages moyens, tu vois, 5%, ça, 10%, etc. Enfin, c'est plutôt 5%, mais dis-moi, donne-moi les fourchettes.
Aujourd'hui, si tu veux, un incubateur, il va chercher à baisser le prix, notamment des bureaux. Tu vois. C'est tous les incubateurs qui proposent des desks, hein, des bureaux, ils vont essayer de baisser le prix au maximum. Et un super exemple de ça, c'est Station F. Alors, je crois qu'ils ont augmenté leur prix récemment, mais ils sont à 220 euros à peu près par mois, par bureau réservé. Donc, il faut le multiplier par le nombre de personnes que vous voulez mettre. Et certains vont monter jusqu'à 500, 600 euros. Donc il faut à chaque fois le multiplier par le nombre de mois et le nombre de personnes pour l'année. Donc là, on a à peu près le montant au bureau. Il faut aussi parfois considérer qu'il y a un prix fixe qui peut être de l'accompagnement. Tout simplement, ça va être du temps humain qui va être proposé effectivement, soit pour des coachs, des mentors, avoir accès aux pairs, avoir accès à certains événements. Je pense que la moyenne, elle est généralement entre 1000 et il y a quelques programmes un peu premium de 10 000 euros, mais c'est entre 1000 et 10 000 euros sur une année, il faut à peu près compter ça, on ferait fixe. Je pense que ça, c'est vraiment une vertu de... C'est sûr que ça peut faire peur à certains entrepreneurs de se dire, OK, bah, je dois avancer 1000 euros pour lancer mon projet alors que j'ai pas encore, je suis pas encore sûr d'avoir les idées. Mais au moins, c'est une garantie que en fait, le programme va mettre vraiment les moyens et a mis un certain budget pour accompagner le projet et vraiment essayer de l'aider. Donc, je pense que c'est aussi c'est donnant-donnant, quoi. Voilà. C'est un service qui est payé. Et après, pour tout ce qui est equity, y a quelques programmes qui les font et généralement le benchmark c'est les 5%. Hein. Je vais pour ne pas les citer, il me semble qu'il y a 50 Partners, The Family, il y avait Numa aussi qui faisait à peu près ce modèle-là. Désolé à ceux que j'oublie, mais en tout cas, il faut savoir que tous les programmes aujourd'hui sur Paris, on se connaît, on se côtoie et on a via une organisation qui s'appelle La Boussole. Donc on peut aussi, on peut aussi nous, entre nous, comparer un peu nos prix. Et après, voilà, tu l'avais cité tout à l'heure, il y a de plus en plus d'incubateurs qui sont financiés soit par la région, soit par des organismes d'État, et en plus permettent de faciliter l'accès à certaines subventions. La plus connue, c'est le PIA, qui est de 30 000 euros. Et une des contreparties, en fait, c'est de les dépenser pour dans l'incubateur qu'on a choisi. Généralement, les programmes d'incubation, voilà, ça va sur un an, ça va être quelque chose comme 1 000 euros. Donc, en fait, voilà, il faut savoir que si on touche ce PIA-là, il va falloir dépenser un certain montant pour l'incubateur. Et d'autres, certains sont gratuits, voilà, des fois, il faut toujours se méfier de ce qui est gratuit. Il y a forcément un client quelque part, quoi.
Alors, tu m'as fait penser à une autre question, je vais te la poser après. Donc, vu que ça se paye, est-ce qu'il faut être vigilant quand on choisit son incubateur? Et si oui, pourquoi?
Quand tu payes, tu dois demander une certaine qualité de service. Et je pense que c'est parfaitement justifié pour un porteur de projet de dire, si je paye 2000 euros pour un accompagnement plus des desks, qu'est-ce que je vais avoir en retour et que derrière l'incubateur soit vraiment capable de répondre, tu auras tant de sessions de coaching, tu auras tant de workshops qui vont être faits avec des experts et on va même en plus te mettre à disposition tout notre réseau si jamais tu as besoin d'une expertise en plus. Ça peut être des choses, ça peut être aussi des grosses réductions sur des événements, sur des salons B2B par exemple, ça peut être aussi des intros avec des groupes corpo, tu vois. Bon, là je vois un petit peu ma paroisse, mais chez School Lab on est très très bon avec les corpos parce que justement c'est nos clients, donc on est capable de vraiment de faire des passerelles, on est vraiment capable de faire la passerelle entre start-up et grands groupes. Donc, tu vois, vraiment, ça se demande. Et qu'est-ce que tu vas payer? Encore les bureaux, toute la logistique aussi, parce que voilà, on peut avoir besoin de scanners, d'imprimantes, de verres d'eau, de café, de facilité d'accès aussi pour les gens qui viennent nous voir, des salles de réunion. Plein de petites choses comme ça.
Petite question bonus, tu m'as parlé du PIA. Est-ce que tu peux le définir un peu plus tout synthétiquement? Et surtout, voilà, je te demande quels sont, quand on entre dans un incubateur ou même quand on lance un projet, tu vois, j'élargis un petit peu les différentes aides publiques, privées qu'on va pouvoir aller chercher quand on lance un projet. Donc là, on sort un petit peu de l'incubation, mais quand je lance un projet, alors, oublie deck, business plan, tout ça, mais voilà. Alors, si j'ai un marché, si j'ai du chiffre d'affaires ou si j'en ai pas, vers quelles aides je peux aller pointer? On coupe un peu. Alors,
vas-y.
Je crois qu'en France, on aime bien dire que Pôle emploi, c'est le plus grand incubateur de France. Exactement. Parce que c'est la vérité. Mais voilà, autre, toutes les choses de Pôle emploi, quelles sont les aides vers...
Tu fais bien de le demander. Et moi, je vais être assez transparent avec toi. Je pense que quand tu génères très peu de chiffre d'affaires ou pas du tout, aujourd'hui en France, il y a encore peu de structures autres que Pôle emploi qui peuvent t'apporter de l'argent. Il faut être honnête, à moins d'avoir effectivement un projet avec une forte traction ou un fort impact social et environnemental. Aujourd'hui, il y a très peu d'aide financière pour ces gens-là. Et moi, je le dis tout de suite aux porteurs de projets qui n'ont pas de clients, n'ont pas de chiffre d'affaires et qui me disent, là, j'ai passé un mois pour faire un dossier pour telle subvention. Je préfère lui dire, écoute, je vais être tout à fait honnête avec toi. Tu as perdu un mois de ton temps. Et je préfère que vraiment les porteurs de projets se dirigent directement, en tout cas, vers la solution, la meilleure solution qui est trouver des clients. Ensuite, après, il y a, comme tu l'as dit, il y a plusieurs aides. Le plus, enfin l'organisme le plus connu, c'est la BPI. Alors la BPI, aujourd'hui, c'est une grosse nébuleuse. C'est une grosse nébuleuse avec plein d'aides différents et en plus qui sont répartis sur différentes régions et départements. Donc moi, ce que je recommande, en tout cas pour les boîtes qui font un peu de chiffre d'affaires, on va dire entre 5 et 15 000, c'est d'aller voir des organismes d'accompagnement. Donc je crois qu'il y a 3i et Eldorado. En fait, c'est très bien parce que généralement, ils se financent au success fee, tu vois, par exemple. Donc, il n'y a rien à avancer. C'est uniquement sur la subvention de 30 000 euros. Ils vont prendre un cut, je pense, ça dépend, mais entre 5 et 12% en fonction de quel type de subvention. Et du coup, ça permet de rien avancer, de gagner du temps. Et en fait, eux, ils connaissent tout l'organisme de la BPI et ils vont direct taper à la bonne porte et ils savent faire les dossiers et du coup ils savent accompagner les entrepreneurs. Donc ça, c'est vraiment un métier à part. Coucou à mon ami Adrien Chaltiel qui est le fondateur d'Eldorado.
Eldorado.co, leur site, ouais.
Ouais, qui est vraiment génial et très bien fait. Ensuite, voilà, il y a le PIA. Le PIA, il me semble que c'est une subvention de la région et du coup, elle est délivrée par plusieurs incubateurs, en tout cas plusieurs incubateurs donnent de région, donnent accès au PIA. Il est de 30 000 euros. C'est une subvention. Alors, je ne sais plus exactement ce que
je peux PIA pas t'aider veut dire. Sur PIA, honnêtement. Je ne peux pas t'aider du tout.
Mais je le connais assez peu. Tiens, ça pourrait être une petite ressource qu'on met en description de podcast pour que je fasse mes devoirs. Ouais. Globalement, voilà, il y a le plus connu d'entre eux, c'est Wilco à Paris qui permet de l'obtenir. Mais il y en a d'autres, il me semble, Pépinière 27 aussi, par exemple.
Ouais. Ok, bah écoute, là déjà, tu as donné pas mal de ressources et je pense que tu as cité les deux meilleurs. En tout cas, c'est ceux qui reviennent le plus dans l'écosystème, surtout en ce moment Eldorado, mais 3i aussi, qui est pas mal, qui est une grosse ref et surtout beaucoup recommandé intra-entrepreneur, tu vois.
Ouais.
Alors avant de voir un petit peu quels sont les idéaux, quels sont les rêves d'entrepreneurs quand ils rentrent dans un incubateur, qui ne devrait pas aujourd'hui se tourner ou aller dans un incubateur, tu vois.
Oula,
pas en mode on ne veut pas de vous, mais surtout vous allez perdre votre temps ou il y a mieux pour vous, tu vois.
Ouais.
Quels sont, si tu veux, quel est le non persona d'incubateur?
Le non persona de l'incubateur, je pense, aujourd'hui, si tu veux, l'incubateur il a quand même intérêt à aider des projets sur lesquels il y a une certaine forme d'innovation ou une certaine sorte de nouveauté. Aujourd'hui, un incubateur, par exemple, il va avoir des difficultés à accompagner les métiers, on va dire, très historiques, un peu plus traditionnels, que ça soit les métiers de l'artisanat, mais que ça soit aussi les métiers peut-être du service ou du conseil. Tu vois, si demain tu veux monter ton agence web, à moins de la packager d'une manière un petit peu novatrice avec un produit en interne ou une façon de marketer qui sont un peu différentes, il y a peu d'incubateurs aujourd'hui à ma connaissance qui vont accompagner ce type de...
Ouais, tu dis dès que le projet n'a pas forcément de valeur ajoutée par rapport à tout ce qui se fait, il n'y a pas trop de pertinence d'accompagner ça, dans le sens où tu veux faire une agence web qui fait rien de plus que d'être intermédiaire ou de créer des choses que les 500 autres agences web du département. C'est pas intéressant. Par contre, si tu as une agence web et que tu as développé un algo qui te permet d'aller chercher ça plus vite, boum boum, là tu as une valeur et nous on t'accompagne parce que tu es inédit.
Exactement, ouais. Donc je pense que c'est la première chose. La deuxième chose, c'est se renseigner très vite sur est-ce que c'est un incubateur qui va accompagner des gens qui ont ne serait-ce que déposé leur statut ou pas. Et ça, ça permet de faire un bon choix parce qu'il y a de plus en plus d'accélérateurs et d'incubateurs qui n'accompagnent pas des boîtes qui ne sont pas créées. Et ça se justifie parce qu'en fait, c'est des gens généralement qui vont commencer. Et des fois, le fait d'aller déposer les statuts, on le sait, tu le sais très bien, tu as un petit côté un peu fier, tu es content, tu as causé une grosse cage dans ta to-do et surtout, c'est un engagement personnel et émotionnel qui est très fort. Donc, tant que tu ne l'as pas fait, tu es peut-être un peu moins engagé. Donc ça peut être une des raisons.
Excuse-moi, est-ce que je peux aller dans un incubateur en SARL, en SASU, si je suis tout seul, en SAS, en EURL?
Je pense qu'il n'y a aucune restriction particulière par rapport à ça. Après, il y a peut-être...
Et même au niveau de la team, en étant tout seul, imagine sur le SASU,
Écoute, tu vois, aujourd'hui, en fait, n'importe qui peut avoir une SASU et n'importe qui peut monter, un projet hyper innovant en étant tout seul. Je pense que le statut, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Ce qui montre, c'est l'engagement, en fait, tout simplement, et de montrer qu'on est engagé et qu'on a envie d'aller à 100% sur le projet.
Ma question, c'est quel que soit le statut, ça pose pas de problème, quoi.
A priori non. Okay. Je connais pas effectivement ce point pour tous mes confrères, mais en tout cas a priori ça pose.
Pour vous c'est pas un critère en fait.
Ouais, pas du tout.
D'accord. Mmh. Ok. Maintenant on l'a fait pour moi en tant que boîte, mais en tant qu'incubateur.
Ouais.
Alors, tu peux parler au nom de School Lab si tu veux, mais tu peux le faire aussi plus globalement, tu peux faire les deux très vite. Qu'est-ce qui va faire que je vais choisir un projet plutôt qu'un autre ? Alors, excuse-moi, c'est pas forcément comme un invest qui va regarder la team avant de regarder le projet, mais vous, qu'est-ce que vous regardez en tant qu'incubateur pour sélectionner ou non ? Quand vous avez 10 places et qu'il y en a 11, tu vois ?
C'est une super bonne question, sachant qu'en plus, il y a beaucoup de programmes ou en tout cas beaucoup d'accompagnants qui restent très opaques là-dessus. Nous, on essaye d'être le plus transparent possible dessus. Comme je te l'ai dit, il y a la règle un peu des 3 derniers mois. Voilà, donc on pose les questions. Qu'est-ce que tu as fait, tout simplement, qu'est-ce que tu as fait ces 3 derniers mois ? Et là, on va pouvoir jauger un peu le niveau d'engagement.
Et donc, pour toi, les meilleures réponses, c'est quoi ?
Beaucoup d'exécution, beaucoup d'apprentissage et surtout de l'exécution qui soit vraiment orientée sur le business. Donc, tout ce qui est client, produit, recrutement, c'est le plus important. Tu vois, mais par exemple, on va mettre en garde, et c'est aussi à nous d'apporter de la valeur aussi aux porteurs de projets, quelqu'un qui va nous voir et qui va nous dire ces 3 derniers mois j'ai fait plein de trucs, je suis allé à 10 apéros pour trouver un cofondateur, là c'est quasiment fait, ensuite j'ai passé une centaine d'heures sur mon logo et mon identité visuelle, et ensuite j'ai commencé à écrire 10 articles de blog mais je les ai toujours pas publiés. Et ben tu vois, là on va essayer d'accompagner l'entrepreneur pour lui dire écoute, t'as peut-être tu penses que tu as fait plein de choses, c'est trop bien, mais en fait, ce qui compte, c'est peut-être plus de t'orienter vers ton client. Et je préfère que tu me dises, j'ai vu 100 clients et je me suis pris 100 baffes et j'ai appris plein de trucs, mais maintenant, mon projet, je sais ce que je vais faire, plutôt que de dire, je sais ce que je dois faire et du coup, maintenant, il faut que je fasse le logo, il faut que je fasse l'identité visuelle, il faut que je trouve partenaires.
Je dis ça dans beaucoup, beaucoup de podcasts, mais parce que c'est la base. On en revient toujours au... C'est pas vous qui construisez le produit de vos rêves, mais vous construisez le produit que vos consommateurs vont avoir envie d'utiliser. Donc, tu peux passer 10 milliards d'heures toute ton existence sur un produit. À la fin, c'est pas toi qui vas utiliser, c'est le marché. Donc, il vaut mieux passer 10 milliards d'heures avec son marché pour qu'il mette toutes les claques dans le produit. Comme ça, il y a un produit qui correspond au marché qui sort. Et là, tu as fait quelque chose. Et là, on en revient un peu au produit market fit, etc. Mais là, tu as un produit qui plaît, en fait. C'est pas, faut le faire à la mano avec le marché, en fait.
Ouais.
C'est ça.
Ouais, clairement. Et tu as tout à fait raison. Et en plus de ça, tu vois, nous, on a une. Vu que tu posais la question un peu des critères qu'on a, nous, il y a quelque chose qui est hyper important pour nous, c'est la capacité d'écoute et d'apprentissage. Donc, tu vois, on le voit tout de suite quand on va se poser avec un entrepreneur à une session de recrutement. Par exemple, si on lui fait un feedback. Qu'on lui fait par exemple plusieurs fois, on va tout de suite voir est-ce que l'entrepreneur il en prend note, est-ce qu'il va essayer de rebondir dessus, ou est-ce que tu vois à l'inverse il va regarder ses chaussures et
est-ce qu'il se braque ou pas,
est-ce qu'il va se braquer et tout. Et en fait on va beaucoup noter effectivement sa capacité d'écoute et sa capacité d'assimilation. Moi avant, quand j'étais chez Abricot, on avait un truc pour tester la mémoire et la capacité d'écoute. C'était dans l'ascenseur il y avait une photo avec une boîte, tu vois, et on parlait de cette boîte dans l'ascenseur. Et durant l'entretien, tu vois, par exemple, on demandait tu te souviens de la boîte de laquelle on a parlé dans l'ascenseur ? Okay. Et en fait, ça montre un peu la capacité d'écoute, beaucoup aussi la mémoire, donc c'est pas toujours adapté.
Et du coup, il y avait quoi dans la boîte ?
Pardon ?
Il y avait quoi dans la boîte du coup ?
C'était une boîte, c'était pas du tout une boîte physique, c'était une société, pardon, mais en gros d'alumni qui avait monté une société qui mettait en relation des influenceurs avec des grands groupes qui s'appelait Ivancy, un très bon copain, un bon copain en tout cas d'Orient à qui je passe le bonjour. Et du coup, on leur demandait, parce que généralement ça venait un peu parler, ça parlait un peu d'Instagram, YouTube, ça permettait de faire un sujet un peu d'accroche quoi.
Ok. Écoute, maintenant, est-ce que tu peux me donner les idéaux d'un entrepreneur quand il se dit « Ok, c'est super, j'ai été pris à l'incubateur, je vais avoir ça, 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 ça. » Est-ce que tu peux me casser les rêves et dire la réalité ? Oui, tu peux prétendre à ça, ça, mais par contre, ça, non, non, non. Tu vois, tant que tu n'as pas les résultats, tant que tu n'as pas les chiffres ou même tant que tu n'es pas prêt avec ton produit, non, c'est pas parce que tu es à l'incubateur que tu vas avoir accès à tout ça. Tu vois. Ouais. L'incubateur n'est pas une fin en soi, c'est pas parce que tu es incubé que tu es en success story. J'ai levé 500 000, c'est bon, c'est fini, dans 10 ans, je suis au CAC 40. Non, tu vois.
Ouais, mais là, en plus, tu vois, je pense qu'on peut se réjouir d'avoir levé 500 000 ou plus parce que ta boîte a une durée de vie un peu plus longue. Sur un incubateur, c'est pas forcément vrai, c'est pas parce que tu rentres dans un incubateur que ta boîte va vivre plus longtemps, qu'elle va être qu'elle va avoir plus de succès. Donc, déjà, effectivement, le voir vraiment comme une marche, mais pas du tout comme un sommet de montagne. Il n'y a rien de glorieux à rentrer dans un incubateur. Il y a des gens qui sont très très bons pour pitcher. Il y a des gens qui sont très très bons aussi pour passer les barrières un peu de recrutement d'un incubateur et puis qu'au final ne vont pas forcément avoir les talents pour exécuter. Donc effectivement, la première chose, c'est ne pas trop le célébrer et démystifier un petit peu ça. Alors je sais qu'il y a beaucoup de programmes d'incubation qui mettent beaucoup de variétés, qui sont très désirables et qui donnent très très envie de rentrer dedans. Et du coup, il y a un côté ah bah je suis dedans, c'est hyper glorifique, voilà, je fais partie d'un réseau. Mais en fait tout ça c'est du marketing et c'est que des biais cognitifs hein. Derrière c'est pas parce qu'on est dans un réseau qu'on y arrive plus, ça aide, c'est un outil. La deuxième chose, je pense la deuxième barrière mentale, c'est un peu comment dire, de se dire qu'un incubateur va travailler à sa place. Je pense qu'un incubateur aujourd'hui c'est une boîte à outils, et l'entrepreneur il se doit de se pencher, l'ouvrir et de farfouiller dans les outils qu'il y a dedans et d'apprendre à en tester plusieurs. Et des fois, bah, de se blesser, des fois sur un outil, ça ne va pas le faire, et d'essayer d'en prendre un autre. Et par contre, l'incubateur ne fournit pas l'ouvrier qui va devoir prendre les outils et savoir manier la clé à molette et après le tournevis. Bon, je fais un peu une métaphore un peu.
Super important et super intéressant dans le sens où ce n'est pas parce que tu es dans l'incubateur qu'on va tout faire, qu'on va tout apporter, que
exactement.
C'est fini. C'est justement parce que tu y es qu'il faut en faire encore plus, encore exactement. Plus vite et qu'il faut être encore plus motivé. Tu vois.
Ouais, exactement. Il y a aussi un peu un système, un peu de. Enfin, des fois, moi, ce que je trouve bien dans un incubateur, c'est que souvent, il y a une compétition un peu saine. Tu vois, il y a, voilà, quand tu as 20 entrepreneurs dans une même pièce qui se voient souvent, ils se challengent un peu, ils ont toujours un peu envie de se dépasser, ils se soutiennent aussi. Donc, ça, c'est quelque chose de cool. Mais en tout cas, ça pousse les entrepreneurs vraiment à agir et à se dépasser. Donc, voilà ce qu'un incubateur ne fournit pas. Et une dernière chose, c'est tout ce qui est à partir vraiment réseau et intro. C'est pas parce qu'on rentre dans un réseau que pour autant on peut se permettre de contacter n'importe qui n'importe comment ou de demander une introduction à n'importe comment. Chacun a son propre réseau et un réseau ça se mérite. C'est aussi quelque chose de très personnel et qui a besoin de qu'on a tous envie de protéger. Hein. On a tous envie un peu de protéger notre réseau. On n'a pas envie d'être sursollicité. Donc on le fait aux personnes. Pour qui c'est pertinent et des fois ne pas se braquer, tu vois, quand on te refuse une intro, quand
ça va se chercher,
exactement, ça va se chercher voilà, je pense qu'il y a tous les outils dans un incubateur pour vraiment s'épanouir et vraiment aller chercher du réseau, le construire, mais c'est pas j'ai besoin d'avoir 5 mentors, je comprends pas, ils m'aiment pas, il faut aussi alors, être humain et savoir un petit peu se vendre et se donner, quoi.
Ça va se chercher et dans le sens où dès qu'on le mérite, la personne à qui on va demander son réseau va être encore plus fière, encore plus heureuse de faire bénéficier son réseau parce qu'elle va voir qu'on le mérite, quoi. Donc, c'est win-win, en fait. Elle va voir qu'on le mérite, donc c'est avec grand plaisir qu'elle va ouvrir les portes de son réseau. Par contre, si elle voit qu'on est là juste pour gratter alors qu'on n'a rien fait, limite, elle va perdre un peu de crédibilité parce qu'elle va mettre en avant quelqu'un qui ne se bouge pas plus qu'un autre. Non, ça va se chercher, c'est win-win. Et là, une fois que tu arrives avec un bagage qui est rempli et que tu as sué et qu'on voit toutes les questions qu'il y a dans ton sac, ah bah oui, là, par contre, limite, je te fais bénéficier de mon réseau parce que moi, je vais amener une bombe, donc il n'y a pas de problème.
Oui, exactement. Ouais. Créer de la valeur aussi. Il faut savoir que généralement, dans beaucoup d'incubateurs, il y a beaucoup de gens qui sont là en mentoring, en coaching et qui le font de manière bénévole ou en tout cas avec beaucoup d'altruisme. Donc, faut respecter ça. Et je pense qu'il faut avoir beaucoup de respect pour les gens effectivement qui donnent un peu de leur temps gratuitement et que faut rien prendre personnellement si jamais il y a des annulations, ce genre de choses. Tu vois, derrière, c'est de l'humain et il faut juste le prendre avec le sourire, quoi.
Totalement. Alors, avant que là vraiment tu mettes en avant. Ce que vous êtes capable d'offrir chez School Lab, est-ce que, je vais te poser 2-3 questions bateau, aujourd'hui, quelles sont les durées d'accompagnement moyennes dans un incubateur? Tu vois, 3 mois, ouais. 6 mois, 1 an?
De plus en plus, si tu veux, les incubateurs vont avoir tendance à le faire généralement entre 6 mois et 24 mois. On va dire, c'est la grande majorité, c'est sur 12 mois, hein, vraiment, il ne faut pas se le cacher. Après, de plus en plus, tu vois, et je pense…
Excuse-moi, 12 mois renouvelables sous conditions, comment ça se passe?
Il y en a beaucoup, effectivement, ceux qui sont 24 mois, c'est généralement du 12 mois reconductible, 12 mois en plus. Okay. Généralement, on demande un engagement, il y a un contrat quand même qui est signé de devoir s'engager sur 12 mois. Après, voilà, des fois, certains quittent aussi pour soit des questions de taille, soit des questions effectivement de où la boîte qui crache et là, no offense, il n'y a pas de problème. Au contraire, on est très content. Enfin, on est très content en tout cas quand la boîte grossit et c'est une très très bonne nouvelle. Je pense tous les accompagnants seront unanimes là-dessus. Quand la boîte crache, on est un peu, on doit aussi être là, je pense, pour soutenir l'entrepreneur. Donc, grosse majorité, on va dire, c'est 6 mois, 12 mois. Certains font 12 mois reconductibles. Et après, de plus en plus, si tu veux, je pense que c'est tout le succès, on va dire, des belles communautés entrepreneuriales, c'est d'être capable de créer une communauté à vie. Je pense que de plus en plus d'incubateurs essayent de le créer, notamment ceux qui le font bien. Je pense à certains incubateurs d'école. Petit coucou à mon ami de la Blue Factory, Maeva Tordo. Tu vois, c'est l'incubateur de l'ESCP. Elle le fait super bien. Elle crée une dynamique vraiment de promotion, d'alumni qu'elle fait très bien. Peut-être que les incubateurs de Corpo le font un peu moins bien, tu vois, un peu moins cette dynamique de promotion et d'alumni. Et ça c'est vraiment quelque chose que les entrepreneurs, ou en tout cas les gens qui postulent à des programmes d'accompagnement, peuvent demander. Voilà, est-ce qu'il y a une communauté qui est active? Est-ce que les alumni sont là? Combien il y a d'alumni aussi, tu vois? Aujourd'hui, on peut être content. Enfin, certains programmes, et dont School Lab, tu vois, on revendique plus de 500, 600 alumni. Bah, tu vois, on est hyper content d'avoir ces gens dans la communauté. Et ce n'est pas autant de projets, parce que certains projets s'arrêtent. Mais en tout cas, on est hyper content de les avoir parmi nous, parce que c'est toujours des gens qui gardent un très bon souvenir de nous et qui répondent présent, quoi.
Ok. Écoute, tu as déjà parlé, présenté les programmes de School Lab en début d'épisode. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, voilà, tu peux me dire comment on vient vers vous, comment vous êtes capable d'accompagner? Alors, tu me représentes les programmes si tu veux, mais voilà, apporte de la valeur dans le sens où qu'est-ce que vous êtes capable d'apporter par rapport au profil de l'entrepreneur et de l'entreprise qui vient vers vous. Et surtout, voilà, quels sont en ce moment, tu cites des noms si tu veux, les projets que vous accompagnez. Alors, sans citer de noms, si tu n'as pas envie, mais les secteurs, les marchés, tu m'as dit que c'est beaucoup de choses sociétales, des boîtes engagées, voilà. Parle-moi de School Lab, en fait.
Ok, avec grand plaisir. Bah, écoute, ouais, comme je te le disais tout à l'heure, on a beaucoup de programmes, donc c'est un peu ça des fois qui peut se perdre un petit peu des fois les gens qui s'intéressent à ça. Nous, en tout cas, on a deux programmes en nom propre, vraiment deux programmes qu'on opère, qu'on finance et sur lesquels on travaille. Le premier, je te l'ai dit, c'était sur Starter. C'est vraiment les gens qui veulent apprendre à entreprendre, vraiment, qui veulent avoir le sac à dos de l'entrepreneuriat. Ça peut être des gens qui ont déjà des clients, ça peut être des gens qui viennent juste avec une idée. Mais là, on va vraiment recruter sur deux choses. La première, c'est la personnalité. Est-ce que c'est quelqu'un qui est motivé? Est-ce que c'est quelqu'un qui est vraiment prêt à changer le monde et qui est prêt aussi à faire les sacrifices pour? On essaye aussi de jauger un peu ça, parce que être entrepreneur en ce moment, c'est très à la mode, mais tout le monde n'est pas prêt à faire les sacrifices pour. Voilà, donc on va un petit peu jauger là-dessus. On aime beaucoup aussi les projets à impact parce que voilà, c'est dans l'ADN. On accompagne de plus en plus de grands groupes pour ça. En fait, c'est aussi une des tendances qu'on voit actuellement. On est persuadé qu'on peut créer des modèles sains économiquement et tu vois qu'on peut créer des ne serait-ce que des produits qui soient un petit peu plus dans la conscience de ce vers quoi on est en train de tendre. Tu vois, nous, on est hyper contents d'avoir accompagné pendant un moment une boîte qui s'appelait Airpure. Je ne sais pas si, tu vois, ils ont été très médiatisés ces derniers temps parce qu'ils sont passés dans l'émission sur M6 qui veut être mon associé. Ouais. Et tu vois, ils font un masque pour les motards et les cyclistes qui fait un filtre à particules pour la pollution, tu vois.
Ils ont été soutenus par quelqu'un?
Je regarde très peu la télé et je suis pas bon.
Je les ai quasiment tous vus passer les projets, j'ai pas vu Airpure.
Et écoute, ils sont peut-être. Alors, peut-être que pour un peu, je te fais un scoop, mais en tout cas, ils sont dans l'émission.
Elle est finie, elle s'est arrêtée l'émission là, en tout cas.
Ouais, alors peut-être qu'ils sont pas encore passés, mais en tout cas, peut-être que. En tout cas, c'est sûr, ils sont passés.
Ton petit doigt te dit que.
Ouais, c'est sûr, ils sont passés dessus. Je sais plus s'ils ont été accompagnés. Mais en tout cas, tu vois, nous, on a été hyper contents d'accompagner une boîte comme ça parce qu'il y a un vrai impact. Mm-hmm. Donc, ça, typiquement, l'impact, des fois, on ne le perçoit pas. Et c'est pas. Faut pas chercher à avoir de l'impact automatiquement, mais essayer de créer une boîte avec une certaine dynamique et des certaines valeurs, je pense que c'est important. Et le deuxième programme sur lequel là on fait vraiment du travail d'orfèvre, c'est on l'appelle Seed Up. Là, c'est vraiment un accélérateur. Donc, c'est 6 mois reconductible, puisque tu demandais. Mmh. Et là, on met vraiment à dispo nos meilleurs experts sur vraiment des domaines très précis. tout ce qui est sales et marketing. Donc, tu vois, on a des experts SEO, Facebook Ads, plutôt en inbound content. On va avoir des gens aussi qui sont hyper, hyper bons en emailing, en call, tu vois, ce genre de choses. Donc là, on est vraiment…
Tous les process qui peuvent arriver pour faire de la vente.
Exactement. Donc, tout, vraiment une grosse partie vente. Après, il y a une grosse partie tout ce qui est recrutement et structuration, voilà, sur laquelle nous, on accompagne beaucoup les entrepreneurs. Et après, on fait… quand on estime que le projet le mérite et que c'est dans l'intérêt aussi des VC, on essaie d'avoir une bonne relation avec les VC, de surtout pas leur envoyer des projets qui ne rentrent pas du tout dans leur scope ou dans leur thèse, et vraiment de leur envoyer très peu de dossiers, mais quand on leur envoie, on sait que derrière ils nous remercient,
qu'il y a un intérêt pour eux et que c'est solide, quoi.
Ouais, exactement,
voilà. Et même pour les entrepreneurs, pas les envoyer vers n'importe qui, voilà, parce qu'il
y a... Ouais.
Ok.
Et dernière chose, pour les étudiants entrepreneurs, il y a un super programme qui est à Station F qui s'appelle Pépite, qu'on fait du coup avec l'organisme Pépite, qui est vraiment super. Moi, je trouve que c'est vraiment cool pour les étudiants. Ils sont à Station F, ils sont dans un bête de contexte, et ils ont accès à des coachs aussi, et du coup ça permet vraiment de grandir, en tout cas quand on est un peu jeune et qu'on est un peu, on va dire, primo entreprenant. Je pense que c'est pas mal.
Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur les incubateurs, sur l'écosystème en général, sur School Lab? Est-ce que tu as, sur tout ce qu'on a dit, il y a un petit point peut-être que tu as oublié, tu vois, c'est le moment de prendre 10 secondes.
Écoute, non, a priori, je pense qu'on a tout dit, et je pense que peut-être vraiment à tous les porteurs de projets, moi je leur recommande de s'informer, de ne pas postuler n'importe où, et de ne pas s'affoler si on ne trouve pas tout de suite la structure d'accompagnement qui nous convient.
Alors justement, ouais. Vers qui je peux me tourner pour chercher la meilleure structure?
Pour chercher la meilleure structure, alors il y a une association qui se crée avec Clara, en fait, qui crée une association entre les différentes structures d'accompagnement. Donc on est aujourd'hui, je crois, elle va me gronder si je dis une bêtise, mais il me semble qu'on est entre 50 et 100. La fourchette est large, hein, comme ça je me mouille pas. Mais on est entre 50 et 100 structures d'accompagnement, et on fait des petits déjeuners une fois par mois. Alors le but, c'est surtout de nous entraider, mais je crois qu'elle est en train de travailler sur un annuaire, et du coup il y aura toutes les structures d'accompagnement qui seront présentes et qui seront référencées dessus. Et du coup je pense qu'il y aura, ça va sortir d'une semaine à l'autre là, et du coup ça permettra vraiment aux porteurs de projets de pouvoir vraiment trouver ce qui leur convient.
La solution marque blanche, tu me dis si elle est pertinente, c'est tout nouveau, ça vient de sortir, c'est Google. Est-ce qu'on peut trouver sur Google? Est-ce que ça peut être assez intéressant, assez pertinent pour choisir, faire son choix, en tout cas des données là-dessus?
Ouais, carrément. Tu veux dire chercher sur Google après effectivement il y a des programmes qui sont historiquement très présents dessus. Je pense sur Google, c'est ceux qui communiquent le plus, ceux qui aussi parfois, ceux qui ont intérêt à communiquer, c'est que ceux qui mettent un peu de budget marketing, donc potentiellement ça peut être les plus chers aussi, donc faut aussi le noter. Et c'est pas forcément des structures, on va dire, un peu institutionnelles ou étatiques, parce que généralement ils communiquent pas toujours très bien, et ils travaillent dessus. En tout cas on essaye de bosser ensemble pour s'entraider avec eux, quoi.
Mais en tout cas, si vous êtes dans une école de commerce, ESCP, même HEC, ils ont l'EDEC, tous. Déjà, tournez-vous vers l'incubateur pour un premier accompagnement. Comme tu l'as dit, en fait, tu peux sauter d'incubateur en incubateur pour trouver celui qui te correspond le mieux. Et puis deux, au niveau du cycle de produit ou dans le processus créatif de ton produit, de ton service, trouver celui qui est le plus adéquat, en tout cas au moment précis, au moment X.
Ouais, mais tu as tout à fait raison de mentionner les écoles, parce que je pense que les écoles sont de plus en plus intéressées par ce sujet-là. Et School Lab, d'ailleurs, on est en train de travailler là avec quelques écoles pour voir si on fait des programmes pour eux, en fait, opérer des programmes pour eux, parce que généralement, ils ont, en fait, généralement, une école, ça a le lieu, ça a les étudiants, ça a les porteurs de projets, mais ça n'a pas toujours effectivement la méthodo, l'infrastructure, on va dire, ça, c'est logiciel pour gérer les porteurs de projets et pouvoir les accompagner au mieux. Donc on est en train de travailler avec des écoles qui sont hyper demandeuses, se tourner vers son école et sa communauté d'alumni, généralement c'est la meilleure chose. Et après, pour tout ce qui est effectivement les incubateurs, on en a un peu parlé, tout ce qui est incubateur corpo, il faut savoir, moi j'aime beaucoup la dynamique des corpos, de se dire on se rapproche des startups. Leur but, c'est très très généralement de préempter des startups avec des forts potentiels, donc il y a quand même peu aujourd'hui d'incubateur corpo qui prend vraiment des projets early stage sans business model. Alors des fois il arrive l'autre cas de figure, c'est soit donc vraiment ils vont essayer de préempter une boîte qu'ils veulent racheter ou en tout cas de la surveiller un petit peu, mais un autre intérêt pour eux, c'est aussi généralement en termes de communication, de dire bah voilà, on est trop content, on a recruté tel projet, on leur offre un bureau, et puis derrière, il n'y a pas toujours l'accompagnement qui suit. Donc quand on se tourne vers un incubateur corpo, c'est sûr que ça fait de la com, ça fait beaucoup beaucoup de bruit, et ça peut être un énorme avantage pour d'ailleurs pour le projet, mais il faut aussi si on a plus besoin d'accompagnement et qu'on est un petit peu qu'on se sent un petit peu seul, peut-être qu'il faut clarifier un peu les choses et leur demander quoi. De toute façon, okay. Personne n'est parfait et il y a du bien et du moins bien partout, quoi.
Super, ouais. Totalement. Est-ce que tu veux rajouter un truc sur tout ça?
Écoute, pas spécialement.
On peut parler d'entrepreneuriat. Tout ça, School Lab. Où est-ce que toi, on peut te contacter si on est intéressé parce que c'est la personne qui gère tout ça chez School Lab. Comment on peut te contacter? Comment ouais. On rentre chez School Lab? Bon, voilà. Comment on te contacte? Où est-ce qu'on peut te trouver?
Alors, moi, je suis très actif sur LinkedIn. Donc, Barthélémy Fendt, F-E-N-D-T. J'écris pas mal aussi sur Medium. J'écris un article un peu tous les trimestres, pour ceux que ça peut intéresser. Et pour contacter School Lab, et si jamais vous voulez être accéléré ou incubé, vous allez sur le site qui s'appelle theschoollab.com, tout attaché. Et il y a un petit onglet startup et là vous cliquez dessus, il y a les deux programmes qui sont présentés et vous pouvez parfaitement vous ajouter au petit formulaire et puis derrière il y a une petite séquence email un peu sympa où on essaye d'apporter un peu du contenu, des vidéos de présentation, des vidéos des alumni aussi parce qu'on est hyper fiers de nos alumni chez School Lab, donc voilà, ça peut donner envie et ça peut donner des idées aux entrepreneurs quoi.
Et puis petit aparté, si vous êtes amateur de podcast, n'hésitez pas à aller voir vraiment le podcast de School Lab qui est extraterrien ouais. Pour des récits de sportifs, fais-le en 10 secondes.
Ouais, bah très très rapidement, toutes les semaines je vais interviewer un sportif de haut niveau pour lui demander de raconter l'histoire qu'il ne raconte pas dans les médias traditionnels.
Okay.
Et voilà, donc c'est des histoires d'aventuriers, des histoires d'explorateurs et aussi de beaucoup de sportifs de haut niveau. Vous avez tous les futurs champions olympiques, là je suis en train de faire une petite série pour les JO de Tokyo. Donc tous les futurs champions, si vous avez envie de les découvrir, c'est vraiment pas mal pour le développement personnel et de faire des passerelles entre le sport et l'entrepreneuriat. Il y a pas mal de choses à en tirer.
Ok, bah en tout cas, merci beaucoup Barthélémy d'avoir accepté l'invitation.
Merci à toi podcast. En tout cas.
Ça me fait très plaisir et je pense vraiment que cet épisode... En tout cas, pour moi, pour tout Steve, je veux que ce soit un épisode, tu vois, charnière, une grosse première introduction à tout ce qui est incubateur. Parce que là, vraiment, je pense que, tu vois, on a survolé dans le sens où l'épisode fait une heure, mais on a vraiment parlé de tout, possibilité, pour qui, pourquoi, inconvénients, avantages, comment. On a tout fait, donc j'en suis assez content et merci beaucoup.
Trop cool.
Merci à la permanence, en tout cas, d'avoir host, d'avoir rendu l'enregistrement de ce podcast possible aujourd'hui. Donc, je le répète, c'est un espace de coworking, 3 salles de Paris, 18e, 14e, 5e. Pour les startups, vous pouvez venir à 5, il y a des endroits où il faut faire du bruit, on peut, des endroits où il faut être silencieux, mais on peut tout faire, c'est vraiment hyper cool, c'est pas cher du tout, c'est 1€ par heure, c'est rien du tout, il faut même de la domiciliation, vous pouvez venir, il n'y a pas de problème. C'est vraiment très très cool, donc la permanence. Hein. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à laisser une belle étoile sur l'Apple Store, enfin sur Apple Podcast, sur la plateforme d'écoute préférée que vous choisissez, à retrouver tous les événements donc pour startups de Two-Step qu'on lance, donc tout simplement sur twostep.fr. Merci à Bart pour l'invitation et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.
Salut.